Bienvenue dans Les Amis Noël.
War is peace. Freedom is slavery.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's
windows. Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Cette semaine, dans les Amis d'Orwell, on s'intéresse à ce qui se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un entretien avec le collectif de Saint-Étienne, halte au contrôle numérique. Imaginez une cité où les caméras de surveillance sont couplées avec des micros, 50 microphones chargés de capter tout l'environnement sonore afin de prévenir et de détecter d'éventuelles infractions. C'était l'idée délirante du maire de Saint-Étienne en 2019 et c'est comme ça que le collectif Halt au contrôle numérique s'est créé à l'époque. À Saint-Étienne, il y avait déjà environ 300 caméras installées dans la ville, des caméras qui étaient donc déjà très intelligentes, mais il ne leur manquait que les oreilles. Manque de bol, le projet a capoté. Il sera donc question dans cette émission, plus largement, de reconnaissance faciale, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, du très droitier Laurent Wauquiez, a décidé d'investir à fond dans cette technologie, en truffant partout dans les gares de la région. Et si vous ne connaissez pas encore le statut d'objecteur du numérique, eh bien restez avec nous dans les Amis d'Orwell. Je suis avec Denis du collectif Halte au contrôle numérique, basé à Saint-Étienne. Salut Denis!
Salut.
Alors, est-ce que tu peux déjà nous faire une petite historique de votre collectif? Je crois que c'est né en 2019, après une initiative assez inédite de la mairie.
On s'est auto-créé en 2019. À l'époque, c'était donc pour contester le projet par la ville d'implantation dans un quartier populaire de Saint-Étienne, par la ville de Saint-Étienne, avec un maire qui est maintenant nationalement connu, Gaël Perdriau, pour espionner aussi ses adjoints.
Ah, c'est lui, Perdriau. Ok.
Voilà, c'est le même. Et donc, là, son projet, en accord avec une société d'armement qui s'appelle Vernet-Caron et qui est à Saint-Étienne.
Alors, attends, Vernet-Caron, c'est bien celle qui a sorti le premier flashball dans les années 90, c'est bien ça?
Tout à fait, et qui maintenant se redéveloppe vers la... les armes dites de poing pour l'armée française. C'est ce qui les relance d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas très loin de la faillite. Uh-huh. Et là, ils sont en train de repartir à fond la caisse. Ils vont construire une nouvelle usine.
Ok, sûrement.
Là, à l'époque, justement, ils cherchaient un nouveau marché et ils voulaient importer en France un système de micro. Micro à installer en plus des caméras. Il y avait même quelque chose d'assez délirant, c'est-à-dire qu'ils associaient ça aussi avec des drones qui auraient décollé dès qu'il y avait un bruit suspect et qui seraient allés vérifier sur place. Mais ça, bon, ce projet-là, ils l'ont abandonné assez vite parce que ça posait des problèmes de survol sans autorisation, etc. Mais bon, ils ont beaucoup insisté sur les micros.
Ouais,
donc
comprends.
Les micros, c'était... Alors, pour expliquer, oui, ce système-là a été utilisé par les Américains, c'est un système américain, et a été utilisé à Bagdad et à Kaboul, pour situer. Alors, Saint-Étienne n'est ni Bagdad... ni Kaboul.
Non, mais tu veux dire que c'était une arme militaire pour ça servait à quoi?
Tout à fait. Hein, c'était un système militaire qui était acclimaté aux civils dans la ville. Quoi.
Ok. Tu peux rappeler juste le nom du projet qui est assez croustillant?
Oui, le nom,
Serenicity, d'accord.
Donc un nom effectivement très apaisant et très moderne, City, Smart City, etc.
Ouais.
Donc voilà, c'était leur projet. Nous, on est arrivés sur l'opération. Alors, pour tout dire, il y avait eu une démarche de la quadrature du net pour obtenir par une procédure CADA des documents sur le projet.
Ouais, les documents administratifs autour du projet.
Voilà. Et donc, nous, on était sur place, on a pris contact avec eux, ils nous ont fait cette documentation et on a décidé donc de contrer le projet en ayant une stratégie. Enfin, on n'était pas très nombreux au départ. Et puis, on avait peu d'armes à notre disposition. Donc, on a vu très vite qu'en fait, alors qu'ils nous disaient que le projet avait été déjà visé par la CNIL, il n'en était rien, ils n'avaient pas l'intention de le faire. Et d'autre part, ils ne vous laissent surtout pas faire de réunion publique pour expliquer le projet. Donc, toute notre stratégie a été de revendiquer ces deux aspects-là.
Parce qu'au départ, juste un truc, parce que je regarde dans un des communiqués que vous avez écrit, le responsable du projet, là, Serenicity, il disait qu'à partir du moment où on n'enregistre rien et que l'émetteur du son ne peut être identifié, on peut faire ce qu'on veut.
C'était ce qu'on avait repéré, parce qu'en fait, lorsque la quadrature avait obtenu le dossier, il y avait les mails, et ça nous a vachement servi, les mails qu'ils échangeaient entre la mairie et la boîte d'armement. Oui, effectivement, on avait vu ce culot-là de dire que, s'ils étaient libres, puisqu'il n'y avait aucune loi qui ne cadrait ce truc, quoi.
Donc en fait, finalement, ça a mis quelques mois et ça s'est dégonflé assez vite, finalement, c'est ça ?
Il a fallu 9 mois pour... ce qu'on a fait, nous, on a voulu faire le buzz, donc très vite, on a fait une pétition en direction de la population qui nous a permis de rencontrer les gens, etc. Différents tracts, beaucoup d'interviews, notamment y compris la presse nationale, parce que c'était la voix, ça s'était jamais vu.
Ouais,
les micros. Donc on a en quelque sorte profité de cette nouveauté, ça intéressait les médias. On a fait également une déambulation festive dans le quartier, donc avec Batoukana, tout le qui était visuellement quelque chose qui pouvait aussi intéresser les médias, donc d'ailleurs il y a eu du relais là-dessus. Et puis, on a obtenu la réunion publique, qu'on a bien sûr, il y avait des gens de notre collectif qui posaient les questions à l'intérieur de la réunion et tout. Et puis, surtout, la CNIL, à un moment, alors qu'elle ne s'était pas intéressée au projet jusque-là, s'est auto-saisie et a invité les responsables de ce projet et leur a signifié l'opposition à la mise en place du projet.
D'accord, et au passage, ça sous-entendait aussi que donc la CNIL n'avait pas du tout été informée du projet au préalable, c'est ça ?
Ah bah oui, tout à fait, ils n'avaient pas été informés, mais ils auraient quand même pu s'en soucier par eux-mêmes, mais sans le truc médiatique, je pense qu'ils ne l'auraient pas fait.
Ouais. Mais avec le recul, tu penses que c'est plutôt du lobbying de l'industriel, ou c'est aussi la mairie qui cherchait absolument un truc pour se faire remarquer et pour...
Je pense que les deux. Il y avait eu de la part de la boîte une volonté de gagner un nouveau marché, parce qu'ils étaient un peu en perdition à l'époque.
Ouais, c'est vrai.
Et de la part de la mairie, de toute façon, c'est une mairie qui, depuis le début, nous fait des coups comme ça, de sécurité à tous les niveaux. C'est un petit Nice, quoi, en termes de mentalité.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est la surenchère à chaque fois avec de nouveaux systèmes. Il y a d'autres trucs qu'on a commencé. mal de continuer. Et du coup, on a organisé pas mal de débats avec des intervenants variés. Bon, il y a eu la Quadrature, mais il y a aussi d'autres universitaires, etc., qu'on a fait venir. Et ça fait donc 4 ans qu'on maintient ce registre-là, à organiser des débats en direction de la population. Mmh. On mène certaines actions toujours sur un registre un peu spectaculaire.
Ouais, c'est ça.
Plutôt humoristique.
Mmh.
Et puis, là, on va engager en septembre un travail qui nous paraît important, qui est, pendant 2 jours, on réunit des gens pour essayer d'élaborer des droits nouveaux en matière, justement, numérique, en fait, surtout.
Ah ouais, j'ai vu ça, ouais, le droit, l'objection, c'est ça, comme...
L'objection, un statut d'objecteur du numérique.
Ah, c'est pas mal, ça. Vas-y, raconte.
Eh ben, c'est l'idée, ben, c'est-à-dire, nous, on constate que depuis, 4 ans, on fait de la résistance. Mais la résistance, ça va un moment, mais en fait... on se retrouve un peu coincé à ne suivre que les coups qui viennent. Donc l'idée, c'est de poser en préalable des droits, et des droits qui pourraient être... Alors bon, ça, c'est d'une part un travail d'écriture, mais après, il faudra qu'on diffuse ces droits-là, et de façon petit à petit à amener des droits opposables.
Mmh.
Quand dans un boulot donné, quelqu'un et on lui impose d'utiliser des procédures numériques, eh bien, il peut s'en dégager en invoquant les droits qu'on aura élaborés. Alors, c'est un long travail, mais et d'ailleurs, il y a une initiative un peu similaire qui est lancée en Belgique.
D'accord.
Par un groupe qui s'appelle le Code du numérique. Et qui, pareillement, essaye d'élaborer un code avec des droits spécifiques face au numérique.
Ok.
Et donc je vous invite à regarder leur site. Il y a le site Code du numérique, okay, qui est également intéressant. Je rappelle le nom de notre site.
Ouais, vas-y.
Alt au contrôle numérique, tout attaché, alt avec un H, .fr. Et c'est un site sur lequel on stocke pas mal de choses.
Ouais, j'ai vu, c'est une ressource très, très intéressante. L'objection numérique, est-ce que ça comprend aussi le droit ou la possibilité d'être dans une zone blanche non couverte par les réseaux ?
Est-ce que... Alors ça, je pense qu'on va l'évoquer, ouais. Parce que oui, un des aspects de notre combat, c'est aussi de défendre les gens victimes des ondes.
D'électrosensibilité, oui. Mmh.
Des ondes électromagnétiques. Et donc, je pense qu'on intégrera ça également dans notre plateforme, en quelque sorte.
Les amis d'Orwell sont au téléphone avec Denis, membre du collectif Alt au contrôle numérique de Saint-Étienne. Oui, j'ai vu quand même que vous relayez souvent des réunions d'information qu'il y a dans certains petits villages de votre région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dès qu'il y a des projets d'implantation de caméras. Honnêtement, moi, ça me rappelle un petit peu les Amis d'Orwell, c'est en fait l'émission qui a été réservée sur Radio Libertaire à Souriez, vous êtes filmé. Et bon, si tu connais sans doute l'histoire de cet assaut, c'était une des premières qui s'est battue contre les caméras, c'était dans les années 90. Et au départ, ça s'est créé à Paris autour de M. Balkany, tu sais, en fait. Donc c'était aussi en réaction à cette grosse enflure qui commençait à vouloir se faire du beurre politique en mettant des caméras dans sa ville. Et il se faisait super bien voir à l'époque. Et les premières manifs contre les caméras, c'était à Levallois, en fait. Et Souriez, vous êtes filmé, est né un petit peu dans ce sillage. Donc je dirais que votre collectif, quelque part, ben, il est un peu né de la même manière. Et là, tu vas voir. Tu vas voir, une fois que tu tires le fil, effectivement, vous en êtes rendu compte, il y a plein de choses à traiter, quoi. Donc je pense que vous avez encore du boulot, quoi, que ce soit dans la région ou...
Oui, oui.
Tu vois ?
Donc là, dans l'histoire, oui, nous, on fait une différence entre l'implantation des caméras. caméras en ville et à la campagne.
Ouais.
Il se trouve qu'en ville, le combat n'est pas perdu, mais a besoin d'être reconstruit. Alors on cherche d'ailleurs des pistes qui passeraient par une cartographie. Là, on vient de faire une journée là-dessus. Donc le système de cartographie est très développé. Notamment, il y a les Belges de Technopolis Bruxelles qui font un travail remarquable là-dessus.
Mmh.
Reste cependant à voir ce qu'on en fait. Parce que faire une cartographie, c'est pour quel objectif? Mais bon, ça c'est un peu une voie de contestation possible en ville. Alors, qui sera sans doute renforcée par la contestation de la reconnaissance faciale, hein, ce qu'on conteste nous aussi. On a fait pas mal d'articles là-dessus, sur la loi LOPMI, sur la loi JO 2024, sur la contestation des drones, etc. On va sans doute, mais on n'a pas encore totalement formalisé la chose, faire un paquet groupé de ces différentes contestations.
Mmh.
Et puis, mouvement intéressant, effectivement, c'est la contestation de l'implantation de caméras dans la campagne, dans les zones rurales, phénomène assez nouveau. Alors, assez nouveau parce que même s'il y a eu des implantations par le passé de caméras, c'est quand même à un niveau extrêmement faible. Alors que là, les mairies, poussées par l'État, hein, puisque l'État, par la loi LOPMI, multiplié par 3 le budget du fonds qui subventionne l'implantation de ces caméras.
Oui, c'est le fonds prévention de la délinquance, c'est ça, ouais.
Oui, oui. Bon, bah, il y a donc une forte incitation de l'État, hein, c'est sûr. Et puis, il y a l'arrivée de nouveaux maires dans les campagnes, qui sont des maires qui sont inspirés par le macronisme triomphant, qui sont extrêmement brutaux, qui ne font plus de négociations locales avec la population et qui imposent ces systèmes. Alors souvent, ça serait même intéressant d'analyser sociologiquement, c'est des gens qui sont poussés par un côté Front National, Rassemblement National, ou extrême droite dans son ensemble.
Décomplexé, oui.
Alors donc, on fait des interventions dans des communes, là on en est à 3 débats déjà organisés, 4 même. Alors sur la base d'un film qui est pas mal, d'un documentaire qui avait été fait pour financé par MCP, qui s'appelle Fliquez-vous les uns les autres.
Fliquez-vous les uns les autres. Ah oui, exactement, j'ai vu la référence. C'est diffusé sur LCP, hein, la chaîne de l'Assemblée nationale.
Alors, il est plus visible hein, sur LCP, mais la quadrature du net en donne un lien. Je peux le donner hein, si...
Ouais, mais je le mettrai sur le site de l'émission, t'inquiète pas. Ouais.
Ok.
Non, parce que moi aussi, je l'ai vu, effectivement, il est assez intéressant, parce qu'il rentre vraiment dans les... On voit les réunions entre des élus, des entreprises, c'est ça ?
Vendeurs matériels.
Ouais. Et en fait, tu rentres vraiment dans les discussions, quoi. Il y a, tu vois à quel point, finalement, ça dépend de pas grand-chose, quoi, pour pencher la balance.
Oui, et puis on voit toujours le même type de raisonnement. Si on met pas des caméras, c'est chez nous que vont venir les délinquants. Quels délinquants, d'ailleurs ?
Ouais, c'est ça.
Il faudrait se poser la question, mais eux, ça la pose pas. C'est toujours... Et puis, on voit la situation, par exemple, à Nice, avec le maire de Nice qui tient un discours ultra-sécuritaire avant l'attentat, ouais. Et qui, après, maintient le même en rajoutant des caméras supplémentaires. Mmh. Et on voit des victimes de l'attentat, des parents qui déplorent la mort de leur fille, petite fille, etc.
Mmh.
Ça pose très très bien les termes du débat, quoi.
Donc ce film-là étant comme une mise en bouche au débat, effectivement.
Voilà, et après, on rencontre les habitants et on fait un débat public. Et alors, bon, il faut être clair, les gens qui viennent sont plutôt en interrogation ou carrément convaincus qu'il faut lutter contre le caméras.
Ouais.
Et, mais c'est en soutien après à la création de collectifs locaux. Donc, on en est à 2-3 collectifs, enfin 3 même collectifs qui se sont développés avant notre arrivée, hein, puisqu'ils nous ont sollicité pour qu'on vienne. Mais disons, le débat a permis de solidifier le collectif local. Donc, ça se multiplie. Alors, bon, il y a d'autres coins en France. Et bah, d'ailleurs, dans un des articles, on met les liens vers pas mal d'autres combats qui ont pu être menés. Il y en a eu à Dijon, il y en a dans la région. Il y a Marcillac qui mène depuis longtemps un combat là-dessus. Dans la région PAC, enfin, dont Occitanie, vers Montpellier et environ, etc. Dans le Nord, dans l'Orne, etc. C'est très intéressant ce réveil, je trouve, de cette prise de conscience. Et c'est peut-être lié au fait que les gens qui sont dans des zones rurales, bon, ils ont quelque chose à défendre, une forme de rapports sociaux qui sont dégagés de certaines pressions et ils veulent le défendre à tout prix, quoi.
Ce soir, les amis d'Orwell sont au téléphone avec Denis. Il est membre fondateur du collectif Halte au contrôle numérique qui est basé à Saint-Étienne. Ok, donc je rappelle sur le site, c'est halteaucontrôlenumérique.fr. Est-ce qu'on peut maintenant évoquer avec toi un truc un peu plus actuel, quoique ça traîne depuis pas mal de temps. Là, on retourne en région Rhône-Alpes, mais au sein de l'Assemblée régionale, qui apparemment tient vraiment à se faire remarquer, justement, en matière de vidéosurveillance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, intelligente, algorithmique, oui. Augmentée. Alors, raconte-moi un peu les délires de Laurent Wauquiez, là, dans la région.
Alors, les délires sont déjà un peu anciens de sa part, mais c'est sûr que... Alors bon, d'abord, il a une vraie stratégie de déploiement de la vidéosurveillance, mais en fait, tout de suite, avec un virage organisé vers la reconnaissance faciale.
C'est ça.
Pour l'ensemble des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec même un habillage qui se conspire, si vous allez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans n'importe quelle commune maintenant, vous trouvez des panneaux blancs et bleus, le bleu de sa couleur, de son parti, qu'il réutilise lors des campagnes électorales, et la région vous aide, il n'y a pas sa figure, mais c'est vraiment hyper... personnalisé comme type de propagande, quoi.
Oui, tu veux dire, tu rentres dans la ville, le village, et hop, il y a le panneau de la région qui dit « c'est bon ».
À l'entrée, on a la région à aider à la création d'une petite salle, alors qu'en fait, les financements sont toujours croisés.
Exact.
Il y a toujours le département, il y a toujours un financement national, voire européen, mais non. Lui, il s'attribue l'ensemble des trucs. Alors, il fait pareil pour la vidéosurveillance, où, en fait, la plupart des fonds, hein, puisque ce qu'il faut dire sur la vidéosurveillance, c'est que le financement national, par exemple, est de l'ordre de 70 à 80% du prix des caméras.
70-80% du coût total du projet, ça, d'accord, c'est l'État qui prend en charge la grande majorité, quoi.
Voilà. Et lui, il doit mettre une petite obole au titre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il s'attribue le financement. Et pareil, on a rencontré des gens dans des réunions qui nous disent « mais la région nous aide pour installer des caméras », alors qu'en fait, c'est un financement essentiellement national. Donc, voilà la trappe-couillon. Et par ailleurs, effectivement, lui a une action particulière pour ce qui est l'équipement des gares et des trains de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc déjà pour la dernière campagne régionale, il avait annoncé qu'il voulait mettre de la reconnaissance faciale partout, dans ses gares et dans ses trains, les TER. On avait suivi le truc, quelqu'un qui bossait avec une société de services nous disait que c'était pas quand même très avancé sur ce plan-là, il avait des problèmes techniques. Donc, il n'y avait pas encore de reconnaissance faciale, mais là, il a profité de la loi JO 2024.
Sur les Jeux Olympiques, oui, exactement.
Donc, par exemple, il a passé un accord avec la SNCF au début juin. Ouais. C'est une convention signée le 2 juin. Ouais. On a fait un article là-dessus sur notre site.
Oui, exact. Ouais.
Va dans un premier temps équiper 129 gares de la région avec un système d'analyse qui n'est pas encore de la reconnaissance faciale pleine et entière à la chinoise, mais qui ressemble grandement. Mmh. Et donc, il reste dans les clous quoi, du texte de loi sur les JO 2024. Mais bon, on y est, quoi. Le but est de s'équiper en reconnaissance faciale dans ces gares.
Ouais. D'ailleurs, dans votre article, vous citez donc 129 gares. En gros, 129 ouais. gares, c'est à peu près la moitié de toutes les gares de la région. Et le nombre
350.
De... C'est ça, 350 gares dans la région. Et le nombre de caméras, ouais, 360, c'est ça, à l'intérieur des gares pour l'instant.
Oui, ouais, 360.
C'est dans votre papier, ouais.
Il y a des gares lyonnaises, hein, uniquement.
Ah, juste les gares autour de la région de Lyon, quoi. Uniquement de la métropole,
ouais.
D'accord. Et quel rapport entre Lyon et les JO de Paris ?
J'ai passé la loi sur les JO 2024.
Ouais.
Intègre aussi la coupe
ah, voilà.
du monde de rugby de 2023.
Qui commence en septembre, là, effectivement. Et ça concerne
voilà.
aussi...
Et en plus, le texte est extrêmement foireux, c'est-à-dire que il dit que par extension, tout événement qui se passera pendant la période, parce que c'est une expérimentation
ouais,
hein, qui dure jusqu'en juin 2025, je crois.
Oui, ok.
Donc, pendant ce temps-là, tout événement pourrait très bien faire l'objet d'une vidéosurveillance de la même façon, enfin, avec reconnaissance faciale, donc. En fait, ça n'est pas que la zone de Paris qui est concernée, c'est toute la France. Alors, bien sûr, à Saint-Étienne, Lyon, je ne sais pas aussi Grenoble en main, il y a des trucs qui vont se passer au moment des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de rugby.
Mmh.
Donc, de fait, ils vont en profiter pour là aussi tester tous leurs équipements. Quoi.
Donc, pour l'instant, c'est un peu un effet d'annonce, évidemment, parce qu'il faut bien. Qui se fasse mousser encore sur ces questions-là, mais on ne connaît pas grand-chose des systèmes évoqués, là. Est-ce que c'est de la reconnaissance des visages? Est-ce que c'est de la reconnaissance des soi-disant des comportements suspects? Tu vois, on ne sait pas trop, là, c'est ça?
Ce qu'il faut dire, c'est que, et ce que nous, on insiste beaucoup à chaque fois, c'est que, en fait, la vidéosurveillance, c'est des caméras, mais c'est aussi des systèmes pour les exploiter.
Ouais.
Notamment les CSU, centres de supervision urbaine.
Ah, ouais, les centres où les opérateurs sont en train de mater les images toute la journée pour faire des rapports.
Voilà, avec des écrans. Et ça, dans beaucoup de villes désormais, on a ce type d'équipement.
Ce type de logiciel qui va analyser en temps réel les images ou après coup, c'est ça?
Alors, théoriquement, jusqu'à présent, la reconnaissance faciale n'était pas autorisée. Mais il y avait déjà des coins où des gens avaient pu identifier que la reconnaissance faciale était clandestinement utilisée. À Nîmes, à Moiron vers Grenoble,
okay.
Où la quadrature du net a d'ailleurs attaqué en justice la mairie. Ces CSU, déjà, il ne s'agit pas de faire grand-chose pour les faire basculer vers la reconnaissance faciale.
Mmh.
En fait, c'est une mise à jour technique plus que l'achat de nouveaux matériels. Et donc, ça veut dire que s'ils font... Bah, y avait déjà clandestinement des coins où la reconnaissance faciale se pratiquait. Bon, bah, là, ils seront autorisés à le faire dans le cadre des JO, de cette loi JO, 2024, mais aussi Coupe du Monde de rugby 2023 et finalement beaucoup d'événements qui pourront, sous prétexte de terrorisme ou autre excuse bidon,
Bah, tu veux dire que même en ce moment, ce qui se passe dans toutes les villes de France, là où c'est un peu l'embrasement, il pourrait y avoir effectivement des mesures qui montrent qu'on va généraliser ces systèmes-là dans toutes les situations, quoi.
Voilà.
Voilà.
Oui.
Tout est fait, tout est
Et
prêt pour.
les drones, parallèlement, les drones ont fait l'objet d'une autorisation par un décret récent également, qu'on cite aussi dans notre site. Eh bien, les drones peuvent être utilisés, eux aussi, pour faire de la reconnaissance faciale. Donc, oui, c'est pas un problème technique, c'est un problème, alors légal, avec même des bémols, puisque la légalité est toute relative.
Exactement.
Voilà.
Les amis d'Orwell sont au téléphone avec Denis, membre du collectif Halte au contrôle numérique de Saint-Étienne. Bon, ces expérimentations, hein, bon, qui sous-entend qu'on est quand même tous des cobayes, hein, c'est quand même sympa, sympa. Mais ça fait partie aussi des processus d'acceptation, c'est ça, c'est qu'on met les gens en situation en disant, vous inquiétez pas, c'est qu'un test. Donc c'est soi-disant un test qui est à durée limitée, et finalement on se rend compte que ben, ça reste en place, quoi. Et puis on pérennise petit à petit.
De toute façon, alors bon, il se trouve qu'à Saint-Étienne, on avait un député qui a été viré depuis, aux dernières élections, Jean-Michel Lemis, MIS. Et ce gars-là avait fait un rapport il y a déjà 3 ans sur les JO 2024, dont beaucoup de termes ont été repris dans la loi concernée.
D'accord.
Et très clairement dans son rapport, il exprimait que il y avait un problème d'acceptation sur la reconnaissance faciale et d'autres technologies numériques, et que bon bah il fallait profiter d'un événement et aussi faire des expérimentations qui ne sont pas soumises au même contrôle. C'est par exemple un bon moyen de contourner l'avis de la CNIL, une expérimentation. Et donc, ils préconisaient déjà ça à l'époque. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette loi, qui justement fait une expérimentation en temps limité. Mais bon, déjà, les sénateurs, LR, ont fait un projet de loi, une proposition de loi très récente, elle a été examinée au Sénat le 2 juin, qui déjà demande la pérennisation de l'utilisation de la reconnaissance faciale.
Ah, déjà, tout de suite, là, maintenant. Ok.
Ah bah, c'est leur dispositif, hein. Bon, d'abord, ils ont de la compétence, puisque ils ont des maires et présidents de région qui sont des promoteurs avisés de ce type de technique. Hein, entre Estrosi, Wauquiez, justement, Pécresse, etc. Et puis, bon, c'est leur façon d'exister actuellement, c'est de doubler par la droite, voire l'extrême droite, leurs amis macroniens, macronistes.
Ok, ben, ça fait du boulot, hein, pas que pour vous, mais ça commence à chauffer là. Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont mises dans la brèche là pour se faire mousser et pour profiter justement de cette expérimentation pour nous balancer des trucs encore plus sécuritaires?
Bah, je pense que l'Île-de-France ne doit pas être loin.
Ouais, c'est vrai. On va quand même pas.
La région PACA, enfin ex-PACA, maintenant c'est Sud, je crois.
Ouais, c'est ça.
Bon, je pense que oui, il y a plusieurs régions qui sont très proche de ces positions. Enfin, ils vont avoir peut-être des terrains d'expérimentation différents, mais ça revient au même. Oui, le projet, c'est bien la généralisation de cette technologie. Ouais.
Ok, donc on rappelle, il y a beaucoup beaucoup de ressources sur le site halte au contrôle numérique.fr. Ben écoute, Denis, je te remercie. Tu as un petit message encore à faire passer, un petit truc là qui te tient à cœur ou.
Alors, message d'espoir, c'est peut-être un peu compliqué
Ouais.
à balancer actuellement. Nous, on pense que si, il y a un message d'espoir relatif qui est que actuellement est en débat un IA Act au niveau européen.
Autour de l'intelligence, l'intelligence artificielle ou.
Oui, puisque l'idée de l'Union européenne, c'est de faire un règlement. Donc, un règlement, c'est applicable tel quel dans tous les pays, sans qu'il y ait de temps d'intégration, hein, contrairement à une directive. Donc, un IA Act est en débat. Cet IA Act a amené quelques éléments qui. Aux luttes citoyennes. Hein. Alors notamment, il y a une organisation qui s'appelle l'IDRI, au niveau européen, qui fait un boulot intéressant.
Qui existe depuis au moins une vingtaine d'années.
Et on a d'ailleurs un article dans le site qui rappelle son activité. Mmh. Ils ont fêté leurs 20 ans cette année, tout à fait. Et cet IDRI, donc, qui fédère toute une série d'organisations en matière de droit numérique, à noter que la France est plutôt en retard sur ses défenses des droits, mais par exemple en Allemagne, où ils ont eu, il faut dire, la Stasi, l'ENADI, ils sont nettement plus sensibilisés que nous sur ces questions, et il y a beaucoup d'organisations allemandes qui sont présentes dans les NOI, il y en a une dizaine, je crois, alors qu'en France, on n'en a qu'une ou quasiment la Quadrature du Net. Et donc, ce texte européen, sans verser dans l'optimisme béat, ouvre quand même une brèche dans la mesure où il est dit que certains dispositifs d'intelligence artificielle pourraient être carrément interdits dans certains usages, et notamment l'usage biométrique. Ce qui voudrait dire, d'ailleurs, que la loi JO 2024, qui est la première loi en Europe à promouvoir la reconnaissance faciale de cette façon, pourrait être déclarée ou tout ou partie illégale en rapport avec ce texte européen. Les choses ne sont pas finies parce que, en fait, il y a eu un vote au Parlement européen donc, qui a abouti à ce truc. Je te renvoie à notre site, on détaille les éléments à retenir. Mais bien sûr, il va y avoir maintenant une négociation avec les États. Et on sait déjà que la France a essayé de jouer du droit d'exception à fond la caisse pour se sortir de ces... contraintes, entre guillemets, vu de leur côté, quoi.
Et donc, pour l'instant, c'est au niveau européen, c'est ça ? Au niveau du Parlement, et puis...
C'est un texte qui a été donc très récemment approuvé par le Parlement européen. Il y a eu un vote très majoritaire pour cette version-là. Donc, il laisse de côté, il faut le déplorer, tout ce qui est migrants, puisque les migrants sont vraiment les victimes de ces systèmes numériques pour lesquels il y a eu beaucoup de projets financés directement par l'Europe. Bon, par exemple, des détecteurs de mensonges, choses complètement aberrantes, qui ont pu être déployées à leur encontre. Donc les migrants restent victimes même après l'examen de ce texte, mais ce texte peut permettre, je pense qu'il va surtout permettre des batailles à venir, c'est-à-dire faire en sorte qu'au nom de ce texte, on classe dans les interdits des dispositifs entiers d'intelligence artificielle et notamment tout ce qui est biométrie. C'est vraiment la bataille à mener dans les années à venir.
On va donc se quitter. Je rappelle donc Halte au contrôle numérique. .fr, c'est votre site et votre collectif donc, qui existe depuis quelques années maintenant. Vous êtes basé à Saint-Etienne et donc j'ai compris que vous étiez sur des actions, sur la sensibilisation qui dépasse de loin votre petite ville. Bah écoute, merci Denis.
Okay.
Merci d'avoir été avec nous. Et puis je relancerai sur le blog de l'émission pas mal de liens vers votre site pour illustrer de ce dont on vient parler. Et bien à bientôt, salut.
À bientôt.
Halte au contrôle numérique, c'est donc ce collectif dont on vient de parler. Leur site halteaucontrôlenumérique.fr. Nous mettrons, comme d'habitude, sur le nôtre, sourier.info, pas mal de ressources récoltées par les copains du collectif stéphanois. C'était plus court que d'habitude. Les Amis d'Orwell, c'est donc fini pour cette fois. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire avec l'émission The Post Non Radio Show. Salut Henrik et bonne soirée.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.